fidèle à la vérité. En tant que leader, nous pouvons apprendre à être des exemples en professant la vérité dans la charité, comme il est dit dans Éphésiens 4, 15. Mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Dire la vérité dans l'amour est un effort louable qui devrait être une aspiration permanente pour nous tous en tant que croyants. Si nous voulons en faire une pratique, nous ferions bien de réfléchir à la réponse à la question « Qu'est-ce que la vérité ?» Explorons quelques aspects pratiques et spirituels de cette question. Outre les Écritures, comment pensez-vous que Jésus-Christ a appris la vérité dans sa jeunesse? L'une des façons dont il aurait appris à être vrai dans la pratique aurait certainement été dans son métier. Au fil des siècles, les chefs rabbiniques ont réitéré la valeur de l'enseignement des métiers à un fils, au point que l'apprentissage familial est devenu un pilier de la société hébraïque. Nous savons que Joseph était charpentier et que Jésus était connu à Nazareth comme le fils du charpentier. Sachant ce qu'il savait sans aucun doute sur l'encadrement des fenêtres et des portes, Joseph aurait enseigné à son fils l'application pratique de la vérité en charpenterie. L'une des façons pour un bon charpentier de démontrer la vérité et de s'efforcer d'être juste dans ses mesures, c'est-à-dire conforme aux règles de la construction. Dans les métiers du bâtiment, être juste signifie être dans un alignement complet et parfait. Lors de la pose d'une porte, par exemple, pour qu'elle s'insère dans le cadre, l'ensemble doit être parfaitement aligné avec la fondation et avec les parties adjacentes. Pour obtenir cet alignement, le cadre est mesuré de trois façons. Horizontalement, pour qu'il soit parfaitement de niveau. Verticalement, pour qu'il soit parfaitement d'aplomb. Et perpendiculairement, pour qu'il soit parfaitement d'équerre. Mais il ne suffit pas de le faire d'un seul côté. Pour que l'installation soit considérée comme complètement et parfaitement juste, ces critères doivent être remplis pour toutes les dimensions et sur tous les côtés. Ce genre d'exactitude n'est pas une mince affaire. Pourtant, des charpentiers expérimentés continuent chaque jour à obtenir des résultats corrects. Il est évident que ce type de symétrie et d'équilibre et réalisable. Des projets réussis le prouvent. La leçon à en tirer est qu'une installation n'est jugée juste que lorsqu'elle s'aligne parfaitement à la fois sur la fondation et sur toutes les parties adjacentes. Tournez s'il vous plaît en 1 Corinthiens 3. Jésus-Christ a eu une connaissance expérimentale de la vérité dans la construction. Plus tard, il sera révélé qu'il est lui-même le fondement de l'édifice de l'Église. 1 Corinthiens 3, 11. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Nous sommes justes ou fidèles lorsque nous sommes alignés sur le fondement Jésus-Christ. Dès son plus jeune âge, Jésus-Christ a su qui il était et qui était son Père. Il s'agit là de vérités spirituelles fondamentales. Qui est Dieu et qui est son Fils? Jésus a vécu et est mort pour Dieu, et Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Si nous voulons dire la vérité dans l'amour, nous devons comprendre qui est le Fils de Dieu par rapport à son Père. Nous devons connaître les réponses à ces questions. Qui est Dieu et qu'a-t-il fait? et qui est son fils, et qu'a-t-il fait? Pierre a démontré cette connaissance en s'adressant aux gens après que lui et Jean eurent exercé la guérison de l'infirme à la porte appelée la Belle, en Actes chapitre 3. Nous commencerons au verset 13. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur, ou fils dans l'araméen, Jésus. Et voici la vérité de Dieu le Père et de Jésus le Fils, que vous avez livré et renié devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâchât. Vous avez renié le Saint et le Juste, et vous avez demandé qu'on vous accordât la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie. Voici la vérité de la crucifixion du Christ. Que Dieu a ressuscité des morts. Voici la vérité de la résurrection du Christ. Nous en sommes témoins. Pierre a clairement fait connaître un ensemble de vérités spirituelles fondamentales que Dieu est le Père de Jésus son Fils, que le Christ a vécu et est mort pour Dieu, et que Dieu l'a ressuscité des morts. Pour vraiment dire la vérité spirituelle dans l'amour, nos paroles doivent s'aligner sur la vérité scripturale de qui est Dieu et de qui est son Fils. Il est clair que les mots que nous prononçons ont de l'importance, mais l'action de dire la vérité dans l'amour se limite-t-elle à la parole? C'est une question à laquelle les exposants se sont heurtés au fil des siècles en raison de la nature inhabituelle du texte grec sous-jacent d'Éphésiens 4, 15. Les mots « professant la vérité » sont tirés d'un seul mot grec, « aletheo », qui est une forme verbale du substantif « vérité ». Mais comment comprendre cela en français? Nous n'avons pas de tel verbe. Certaines Bibles, comme la version anglaise amplifiée classique, se sont efforcées de résoudre cette énigme en développant le sens du mot « vérité » dans le verset, ce qui peut constituer une approche efficace de la traduction. Éphésiens 4, 15, selon la Bible anglaise amplifiée. Au contraire, laissons nos vies exprimer la vérité avec amour, en toute chose. En parlant vrai, en agissant vrai, en vivant vrai. Il est toujours merveilleux cependant qu'une traduction soit capable de capturer l'essence du message en aussi peu de mots que possible. Nous devons ici rendre hommage à Bullinger, qui définit aletheo de manière concise comme être fidèle. Avec cette compréhension, l'exhortation d'Éphésiens 4, 15 peut être réduite à ses termes les plus simples, à savoir être fidèle. Comprendre cet aspect de l'exhortation nous donne une toute nouvelle perspective sur ce que nous devons faire. Nous devons dire la vérité, faire connaître la vérité en étant fidèle. Qu'est-ce que c'est que d'être fidèle? Voici quelques synonymes. Être franc, être honnête, être sincère, être authentique, être vrai, être fiable, être digne de confiance, être honorable, être loyal. Il s'agit là de merveilleux traits de caractère auxquels nous devrions tous aspirer. Et quel est l'objectif de toutes ces vertus? Mettre en valeur la vérité. Lorsque nous vivons ensemble dans l'amour, nous disons non à la duplicité et à l'hypocrisie. Nous rejetons le mensonge et embrassons ce que Dieu dit être vrai. Retournons maintenant en Philippiens chapitre 4. Commençons au verset 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Paul exhorte les Philippiens à penser à ces choses et à les pratiquer. Ce qui est vrai, honorable, juste, pur, aimable et qui mérite l'approbation. Un autre aspect de la mise en valeur de la vérité est le développement d'une conscience de l'agence de Dieu ou de sa capacité à agir dans nos vies. Un défaut humain courant est la tendance à penser à Dieu de manière trop distante. Nous nous occupons de nos affaires quotidiennes comme si elles étaient trop banales pour qu'il s'en préoccupe, mais il se soucie de nous et nous devrions veiller à l'inclure, non pas sporadiquement, mais continuellement. Chaque jour qui se lève, Dieu est avec nous. Il envisage pour nous des choses à faire, des endroits où aller et des gens à rencontrer. Certaines de ces choses sont connues à l'avance, d'autres sont découvertes au fur et à mesure de la journée, mais nous devons chercher sa main de bénédiction à chaque tournant. Une part importante de ce style de vie implique de se déplacer, pas nécessairement physiquement, mais en prenant des décisions. Si je dois présenter la vérité avec amour dans ma vie devra se croiser avec les gens. Je ne peux pas me contenter d'être une tapisserie ou une patate de canapé en attendant que les gens viennent à moi. Ainsi, lorsque je réfléchis aux activités de la journée, je dois envisager de me lever et de sortir en termes de contact avec les autres. Même si cela signifie simplement envoyer un message ou passer un coup de fil à quelqu'un dont je n'aurais peut-être pas croisé le chemin autrement. À qui puis-je montrer l'amour du Christ aujourd'hui et comment? Serais-je prêt pour cette rencontre inattendue, mais divinement ordonnée, avec quelqu'un que je n'imaginais pas voir? Ces moments peuvent être parmi les plus profondément significatifs, car ils n'ont pu se produire qu'avec sa participation. Ne sous-estimez jamais la capacité de Dieu à vous faire plaisir. Même s'il est essentiel que nous reconnaissions notre responsabilité individuelle de dire la vérité dans l'amour, ce n'est pas tout. Pourtant, pendant des années, j'ai supposé que dire la vérité dans l'amour était un commandement adressé à l'individu. Mais est-ce là tout ce que dit le passage dans son contexte? Éphésiens 4, 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenu à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par le ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Nous devons tous parvenir à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, selon le verset 13, afin de ne plus être des enfants, verset 14, et de pouvoir tous ensemble croître à tous égards en celui qui est le chef, verset 15. Vous voyez, dire la vérité dans l'amour n'est pas quelque chose que nous faisons seuls, c'est quelque chose que nous devenons ensemble, en croissant à tous égards dans le chef, le Christ. C'est notre responsabilité collective en tant que membre d'un seul corps. Colossiens, chapitre 2, parle de s'attacher au chef, une référence au Christ en tant que tête du corps. Colossiens 2, verset 19. Sans s'attacher au chef, dont tout le corps, assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens, tel l'accroissement que Dieu donne. nous devons être solidement assemblés en tant que membres du corps du Christ. L'expression des jointures et des liens désigne de manière générique les points de contact et les connexions à l'intérieur du corps. Le corps a de nombreuses parties reliées entre elles et elles sont toutes connectées d'une manière ou d'une autre à la tête. En tant que tête, le Christ est qui insuffle la vie dans le corps du Christ. Dans le corps du Christ, donc, nous devons rester connectés, premièrement à la tête et deuxièmement les uns aux autres. Il s'agit essentiellement de la même vérité que nous avons vue dans notre analogie de la construction. Nous devons rester parfaitement alignés avec la fondation et avec les parties adjacentes. Mais en pratique, que signifie s'attacher au chef? Que le Christ en nous, l'Esprit Saint ou l'Esprit de Christ en nous, doit prédominer dans notre vie lorsque nous marchons au nom de Jésus-Christ. Lorsque nous nous attachons ainsi au Christ qui est la tête et que nous sommes solidement assemblés dans l'amour avec les autres membres, il en résulte un accroissement que Dieu donne, comme nous venons de la lire en Colossiens 2:19. Les différentes parties sont assistées et solidement assemblées dans l'amour en interagissant les unes avec les autres et elles croissent en restant connectées à la tête. Dans les jours qui ont suivi la Pentecôte, les vérités du mystère et du corps du Christ n'avaient pas encore été révélées. Cependant, si vous regardez la vie des dirigeants de l'Église de l'époque, ils étaient des exemples palpables et vivants de l'impact de l'expression de la vérité dans l'amour. Jetons un coup d'œil à un passage bien connu qui en est l'illustration. Plus tôt, dans Actes 3, nous avons vu comment Pierre et Jean reconnaissaient habituellement Dieu comme le Seigneur Dieu et agissaient avec audace au nom de Jésus-Christ parmi les gens. Ils ont constamment fait connaître sa crucifixion et sa résurrection à tous les hommes et pas seulement aux croyants. En passant à Actes 4, nous voyons l'aboutissement d'une saga du palais vrai qui a germé et s'est épanoui après la guérison de l'infirme à la porte appelée la Belle. Ce qui a commencé comme deux croyants en harmonie avec Dieu et l'un avec l'autre, s'est étendu vers l'extérieur en touchant un autre cœur croyant, celui de l'homme qui a été guéri, et s'est ensuite répercuté pour englober tous les spectateurs réceptifs qui ont été touchés par la puissance démontrée de Dieu. Cela a motivé l'ensemble des croyants de Pierre et Jean à implorer Dieu à l'unisson pour qu'il leur accorde sa faveur et sa main de bénédiction. Écoutez leur prière ici en Actes 4, au verset 24. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent « Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, son serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël, pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces, et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. » Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Que s'est-il passé exactement au sein de ce groupe de croyants fidèles? Ensemble, ils ont pris la décision commune d'être fidèles à la vérité. Ils se sont soutenus les uns les autres dans cette voie. D'une seule voix, ils ont dit la vérité dans l'amour, et cela a ébranlé l'endroit. N'auriez-vous pas aimé être là à ce moment-là pour expérimenter la puissance électrisante de l'unité de l'esprit par le lien de la paix? Cela aurait certainement été inoubliable. Voici le résultat de leur commun accord. En acte 4, verset 32, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Il ne fait aucun doute que chacun d'entre nous bénéficiera du fait de dire la vérité dans le monde, dans sa propre vie. Le fait de le faire ensemble multipliera de manière exponentielle la bénédiction du partenariat avec Dieu et avec nos frères et sœurs. Tel qu'il est dit en 2 Pierre, chapitre 3, le dernier verset du livre, verset 18. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. Ensemble, prenons la résolution d'être fidèles à la vérité en tant que membres d'un seul corps et regardons Dieu nous amener tous au sommet à mesure que nous croissons dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.